Donc un homme, Marc Lépine, a ouvert le feu sur 28 personnes en tuant 14 femmes. Donc en fait, cette tuerie s'inscrit dans... comme un féminicide, en fait. Et du coup, à l'occasion de la commémoration de cet événement, on va faire la conférence formation sur la misogynie. Donc sans oublier qu'en fait, c'est quelque chose qui a lieu partout dans le monde, qui se manifeste différemment dans beaucoup de pays, mais que voilà, c'est partout, que partout il y a des femmes qui sont tuées, violées, tout ça. Donc ce sera rappelé lors de la conférence. Et voilà.
Voilà, pardon. Donc c'est tout bon. Donc l'heure du coup, ouverture des portes.
18h30.
Enfin des portes, il n'y a plus de portes, mais.
Ouverture des rideaux.
Pardon, on rigole un petit peu de tout ça. Mais ouverture du rideau donc à 18h30.
Et je crois... début de la conférence à
19h. Donc voilà. Je suis très déçu parce que j'avais oublié du coup de.
Le rideau, on peut dire, c'est classe quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Bah, non, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Donc si vous écoutez l'émission en podcast un peu plus tard, bah, vous aurez. Vous verrez la camarade en cours de route sur l'annonce de la conférence.
On peut se moquer du stagiaire à la
tout à fait, tout à fait. Et je suis très déçu du coup que ma petite blague de début ne soit pas du coup dans l'enregistrement. Donc je la referai peut-être un peu plus tard, on verra. En parlant de la plume noire, du coup, on continue à le dire et à le redire. Hein. Du coup, il y a toujours l'appel à solidarité financière qui tourne sur Internet et ailleurs. Vous avez possibilité, du coup, de nous aider à remettre le local en état. Il y aura forcément, évidemment, l'assurance qui prendra en charge une partie de tout ça. Mais voilà, pour remettre le local en état, le sécuriser, le pérenniser, etc., etc. On a besoin de vous. Donc, il y a un appel à dons qui tourne sur Pot commun et vous pouvez aussi envoyer vos dons par chèque à l'ordre de La Plume Noire en envoyant tout ça à La Plume Noire au 8 rue Diderot. Dans le premier arrondissement, il y a aussi possibilité de faire des virements. Enfin, vous allez voir tout ça sur le net. Tout est indiqué et on remercie du coup les personnes du bureau de Radio Canu. Du coup, combien vous lui mettez l'annonce de l'appel à don à solidarité financière du coup en une du site de Radio Canu. Donc vous pouvez aussi y aller par ce biais-là. Donc voilà, donc j'enchaîne. Donc là c'était pour vendredi 9 et il y a un rassemblement si vous n'avez pas fui la ville à cause de la fête des Lumières. Voilà, il y a un rassemblement dimanche après-midi à 15h30 devant le consulat turc. Ça se passera, donc le consulat turc, c'est 87 rue de 16, dans le 6e arrondissement, voilà, avec un rassemblement en soutien aux femmes et aux minorités de Turquie. Donc voilà, le titre du tract, c'est « Les femmes de Turquie et du Kurdistan ne sont pas seules ». Et donc, je vais vous lire un petit peu le tract. « Depuis la mise en échec de l'AKP aux élections de juin 2015, l'État turc a décidé de mener une répression sanglante contre les populations kurdes, alévies, arméniennes, l'ensemble des minorités, et de criminaliser toute autre opposition, syndicats, organisations de gauche, turques et kurdes, féministes, LGBTI, démocrates, défenseurs des droits de l'homme, avocats, avocates, universitaires, journalistes. Dans ce contexte, la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 est devenue un prétexte à la mise en œuvre d'une répression encore plus massive et violente. L'établissement de l'état d'urgence permet désormais au Conseil des ministres de gouverner par décret en suspendant l'obligation du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Au lendemain du 15 juillet, 50 000 fonctionnaires ont été arrêtés et plus de 11 301 enseignants et enseignantes ont été destitués de leurs fonctions. Mais ce sont les populations de l'est du pays, majoritairement kurdes et alévis, qui sont les premières cibles de cette violence. Placées sous couvre-feu militaire durant plusieurs mois, de nombreuses villes de l'est ont été attaquées, incendiées et détruites, causant la mort de civils et en poussant d'autres sur les routes. Dans un souci de faire taire l'opposition politique au Kurdistan, 28 mairies, dont 24 villes kurdes, ont été placées sous tutelle administrative. Donc voilà, c'est la situation globale un peu hein, qui est rappelée ici, donc qui tend toujours vers toujours plus de répression, et bien dont les femmes sont les premières victimes car elles occupent une place centrale dans l'opposition. Elles sont doublement attaquées, les femmes kurdes alévies et issues des minorités et des luttes LGBTI sont pointées du doigt et victimes d'une violente répression. De nombreuses femmes journalistes sont arrêtées car travaillant sur le Kurdistan et accusées de terrorisme. Les femmes politiques du HDP, le Parti démocrate des peuples, sont arrêtées et ou démises de leurs fonctions comme la coprésidente Figen Yüksekdag et les maires de Diyarbakır et Mardin. Seule mère chrétienne. Les femmes artistes et intellectuelles sont également criminalisées. Rappelons que la romancière turque Hasli Erdogan a été arrêtée le 19 août dernier pour ses chroniques dans le journal pro-kurde. Maintenue en détention, est actuellement accusée de terrorisme également. Et aussi de nombreuses avocates universitaires militantes de gauche sont démises de leurs fonctions, arrêtées, parfois même assassinées. Lors de ces arrestations et alors que la torture s'intensifie depuis l'extension de la période de garde à vue à 3 mois, les femmes sont très fréquemment menacées de viol lors des gardes à vue et durant leur période de détention. On compte de nombreuses victimes d'agressions sexuelles, de viols, de tortures physiques et psychologiques touchant plus particulièrement les femmes et les minorités. Depuis 2014, Erdogan s'attaque aux droits des femmes et des minorités et applique une conception essentialiste du rôle des femmes. Plus largement, c'est l'ensemble donc des femmes du pays qui sont impactées par cette répression. Les déclarations misogynes à répétition d'Erdogan légitiment les attaques faites à l'encontre des femmes et renforcent ce sentiment d'impunité des agresseurs. En novembre 2014, Erdogan avait déclaré que le planning familial et la contraception ne convenaient pas aux familles musulmanes. Pour lui, l'avortement étant, entre guillemets, un crime contre l'humanité et le planning familial, toujours entre guillemets, une trahison contre des générations de Turcs. À la suite de ces propos, le président turc a exhorté les femmes de son pays à avoir au moins 3 enfants, sans quoi leur vie serait incomplète. C'est quand même formidable. Lors d'un discours en marge d'un sommet sur la justice et les femmes à Istanbul, Erdogan a estimé que les femmes ne pouvaient être naturellement égales aux hommes. Entre son élection en 2002 et l'année 2009, toutes les violences contre les femmes ont augmenté de 1400% en Turquie. Et la tendance n'a fait que s'aggraver avec le temps. Au cours de l'année 2014, au moins 294 femmes ont été tuées en Turquie. Rien qu'en janvier dernier, 27 ont perdu la vie, soit 20% de plus que l'année précédente. Au moins 3 femmes sont tuées par jour. 5406 femmes tuées entre 2002 et 2015. À chaque fois, l'agresseur fait partie de l'entourage direct ou indirect de la victime. Rappelons le féminicide d'Oxegan Aslan, la jeune étudiante à Lévis de 20 ans, violée puis tuée à coups de barre de fer par le chauffeur du minibus qui l'a ramenée de l'université. Son corps brûlé avait été retrouvé dans une rivière de la ville de Tarsus, dans le sud du pays, les mains coupées. Mais le 18 novembre 2016, un pas de plus a été franchi. Un projet de loi visant à dépénaliser les viols sur mineurs a été voté en première lecture. Ce projet de loi visait à relâcher les coupables d'abus sexuels sur mineurs à condition que l'agresseur épouse sa victime. Cette proposition de loi a provoqué une levée de bouclier en Turquie où plus de 11 000 enfants ont été reconnus victimes de violences sexuelles en 2014. L'AKP vise par ce projet à la fois à légitimer le mariage religieux, mais aussi à libéraliser et à légaliser les violences faites sur les mineurs. Le gouvernement a pour l'instant reculé devant la contestation massive. Depuis juillet et sous prétexte d'état d'urgence, le gouvernement turc a ordonné la fermeture permanente de plus de 400 associations, parmi lesquelles de nombreuses associations de défense des droits des femmes et des enfants, l'association Vite Femmes à Adıyaman, l'association de recherche féministe Anka, l'association Kermesse de solidarité des femmes à Bursa, l'association des femmes La Gazelle, l'association des femmes L'Arc-en-Ciel, la KJE, l'association Le Toit des femmes à Mus, l'association des femmes Célis, l'association des femmes à Vannes. La politique de l'AKP appelle à une violence générale contre les femmes et leur liberté. La fermeture d'associations de défense des droits des femmes en est encore un exemple. Les militantes et militantes LGBTI sont également victimes de cette atmosphère réactionnaire. Rappelons l'assassinat sauvage cet été de la militante trans Hande Kader à Istanbul. Militante active de la cause LGBTI, a été devenue une figure centrale de la communauté après avoir fait face en juin 2015 à la police anti-émeute qui tentait d'interdire la Gay Pride d'Istanbul. Récemment, c'est Levan Piskin, avocat des droits de l'homme et militant LGBT qui a été arrêté puis relâché. Ce n'est pas la première fois que les mouvements LGBTI sont attaqués en 2016. Les autorités ont décidé de ne pas autoriser la marche des fiertés à Istanbul pour la première fois depuis plus d'une décennie. Donc voilà, ça se finit comme ça. Nous, militantes féministes, syndicats et organisations de gauche, dénonçons le silence complice de l'Union européenne et du gouvernement français face à la politique réactionnaire et répressive menée en Turquie. Nous dénonçons également la coopération des services de police européens au travers des opérations financières visant les militantes et militantes de Turquie sur le sol européen. Rappelons que le 15 avril 2015, la justice allemande a demandé et organisé l'arrestation de 10 membres de la Confédération des travailleurs turcs en Europe, ATIK, et que lumière n'a toujours pas été faite sur le triple assassinat des militantes kurdes à Paris. Donc voilà, donc ce rassemblement donc est appelé ce dimanche 11 décembre à 15h30 devant le consulat turc au 87 rue de 16 à Lyon. Donc voilà, c'est signé par un peu plus d'une trentaine d'organisations, de collectifs, de syndicats, dont la CGA Lyon. Donc on sera présente du coup dimanche après-midi. Et pour enchaîner sur un autre rassemblement, celui-ci qui aura lieu du coup mardi 13 décembre à partir de 18h place des Terreaux. Du coup c'est un rassemblement qui est appelé par le collectif de solidarité avec les migrantes et les migrantes et les réfugiés dont fait aussi partie la CGA Lyon, même si on est un petit peu absent, mais du coup on est toujours là. Enfin, du coup le texte est signé, on l'a signé, puis on sera présent et présente du coup au rassemblement. Je vous lis rapidement aussi le déroulé, enfin du coup de l'appel. Liberté de circulation, réfugiés, migrants, migrantes, vous êtes les bienvenus. Les réfugiés ne sont pas dangereux, ce sont eux qui sont en danger car victimes d'une vaste propagande mensongère. Voilà, bah on revient, enfin je vais pas revenir sur tout, mais du coup on l'avait déjà fait plusieurs fois du coup sur les préjugés, du coup sur les migrantes et les migrantes. Ils sont en danger car ils sont victimes du tri que cachent les belles paroles. Les fameux centres d'accueil et d'orientation dans lesquels l'État envoie les réfugiés séparent entre guillemets les bons des indésirables. En 2015, le statut de réfugié a été refusé à 63%. des demandeuses et des demandeurs d'asile. D'un côté, l'accueil de quelques-uns et quelques-unes, et de l'autre, des expulsions massives. Donc voilà, vous pouvez trouver du coup le texte sur Internet. Je vais peut-être pas faire plus, si, parce que du coup, il y a quand même des choses à dire, surtout par rapport à Frontex. Frontex, on avait pas mal parlé, hein, c'est la police un peu des frontières qui s'occupe de faire le ménage au niveau des migrants dans les autres pays, voilà, aux frontières notamment. Donc voilà, donc ce rassemblement est aussi contre du coup les politiques migratoires meurtrières pour le démantèlement de Frontex, qui surveille donc les frontières et intercepte les migrantes et les migrants. Pour que le budget consacré à la chasse aux migrants et migrantes soit consacré à leurs accueils, pour respecter la libre circulation des papiers pour toutes et tous, on rajoute même droit d'installation, pour respecter le droit d'asile et abroger l'accord de Dublin. Alors Dublin, on vous rappelle vite fait, hein, Dublin, c'est quand vous arrivez dans un pays, enfin quand les migrants font une traversée de plusieurs milliers de kilomètres, qui débarquent en Europe, par exemple en Italie ou ailleurs, et que leurs empreintes sont prises, s'ils changent de pays et qu'ils sont arrêtés, voilà, et qu'ils sont arrêtés, enfin une deuxième fois du coup, vu que leurs empreintes ont été prises dans un autre pays, ben ils sont renvoyés dans ce premier pays, donc retour en arrière. Donc voilà. Et pour la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de tous les mineurs isolés et le droit à l'enseignement pour tous les jeunes. Donc voilà. Nous, on va pouvoir ajouter aussi qu'on échangerait bien un million de fachos contre un million de migrants et migrantes. Hein, ça ferait du bien au pays, il me semble. Donc ouais. Voilà. Et juste pour vous dire un petit peu qu'au niveau de la justice, bah, c'est très moche aussi ce qui se passe. Voilà. C'est de nouveau de la prison, en fait, pour un jeune. Voilà. Après Christian, Michael et Ousmane, 3 mois de prison avec sursis pour Raphaël. C'était jeudi dernier. Ça se passe au tribunal correctionnel de Lyon. Voilà, le passeport et l'acte de naissance de Raphaël sont vrais. C'est la fraude documentaire et la police qui le disent. Les juges le répètent. Le Cameroun a reconnu avoir délivré, oui, ce vrai passeport à Raphaël à Madrid. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus pour dire que Michael a 17 ans? En violation complète du principe de reconnaissance des actes d'état civil étranger, la MEOMI, hein, donc c'est tout le processus, a émis des doutes sur la minorité de Michael dès son arrivée et a sollicité une enquête du parquet. En violation complète du même principe, le parquet l'a suivi. Après, il a fallu, entre guillemets, habiller l'accusation. Donc des tests osseux, eux-mêmes pratiqués illégalement, puisqu'il y a eu examen pubertaire des organes sexuels, alors que le nouvel article 388 du Code civil l'interdit. L'avocat a demandé leur annulation pour ce motif. Les juges ont décidé une annulation partielle, sur ce point seulement. Ils ont retenu la conclusion du soi-disant expert, au minimum 19 ans. Pourtant, certains des résultats donnaient autour de 17 ans. Pas de marge d'erreur indiquée sur la conclusion, comme la loi le prévoit. Restait le pinaillage sur les circonstances exactes du passage en Espagne, avec des informations espagnoles manifestement tronquées. Donc voilà, c'est encore un jeune qui va finir du coup... Enfin, du coup, là, il n'a pas pris du fer, mais du coup, c'est déjà arrivé fréquemment qu'il y a des jeunes, des mineurs du coup qui prennent du ferme pour être accusés d'avoir menti sur leur âge. Et voilà, on rappelle que ces tests osseux sont complètement illégaux, c'est complètement fou. Il y a même un mineur qui avait été jugé pour avoir 35 ans, voilà, selon les tests osseux, ce qui était assez formidable quand même pour ça. Donc voilà, 20h16, je vais juste finir par une petite annonce du coup sur Montpellier. Si samedi 17 décembre vous êtes par là-bas, et ben vous aurez le choix du coup entre regarder à la télé, non je déconne, l'élection de Miss France, ou participer à un rassemblement place de la Comédie. Voilà, je vous lis vite fait le début du tract, hein. Le samedi 17 décembre aura lieu à Montpellier l'élection de Miss France 2017, depuis 1920 pardon. Chaque année, a lieu sous les yeux de millions de spectateurs et spectatrices émerveillés, un concours entre guillemets de beauté visant à élire entre guillemets la plus belle femme en France. Pour cela, sont mises en compétition quelques dizaines de candidates, les Miss. Et ben, du coup, le tract appelle, donc c'est un collectif féministe là-bas qui appelle, je crois que c'est la collective. Nous ne souhaitons pas que cet événement se déroule sans que nous puissions le dénoncer. Loin d'être anodin, il est l'une des expressions les plus médiatiques de la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Les Miss, ce sont les stéréotypes de la femme en majuscule, tel que le souhaite le patriarcat, de magnifiques femmes objets incarnées dans des corps déshumanisés et soumis. Les Miss, on ne leur demande pas de penser, juste de bien faire bander. Les Miss, ce sont les soldats de la dictature d'une certaine norme de la beauté qui veut donner l'exemple de la femme féminine qu'il faut désirer être et qu'il faut désirer posséder, modèle qui se répète à l'infini dans l'ensemble des médias de masse. Les Miss offrent des corps plastiques mesurables et identiques qui ne sont plus qu'objets à évaluer, acheter ou vendre, marchandises parfaites créées par une société capitaliste, patriarcale, hétéronormé et raciste. Je vous laisserai du coup lire la suite de tout ça. Vous allez sur le net, du coup, soit sur la page du coup du groupe CGR Montpellier, soit éventuellement sur le site de la collective. Ça va être aussi inscrit. Et on en profite pour bien emmerder aussi ceux qui sont en ce moment devant le palais de justice à Saint-Jean et qui organisent un rassemblement totalement illégal en plus, en plein état d'urgence comme d'habitude. Mais on va laisser faire. Hein. Voilà, un rassemblement anti-avortement en ce moment du coup devant le palais de justice de Saint-Jean. Alors on suppose du coup que c'est le fameux groupe Les Survivants qui avait dit qu'il allait faire plusieurs actions durant la fête de lumière.
Sûrement accompagné
de sûrement accompagné ouais, des Gudard et enfin de toute la tous les cathos fachos qu'on a eu pas il y a pas si longtemps que ça sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc voilà, on va le redire, on les emmerde bien fort et qu'ils nous lâchent un peu la grappe, tous ces cons. Donc voilà, on en profite aussi pour dire, il y aura sûrement, du coup, ils ont annoncé plusieurs actions hein, sur les 4 jours qui viennent là. Ce groupe-là des survivants est sûrement entouré par d'autres, notamment sur sûrement un centre IVG ce samedi matin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir prêts et prêtes si jamais, du coup, voilà, le lieu est connu et que devant le rassemblement de maires devant le centre IVG, bah voilà, ce sera l'occasion de se bouger un peu et d'aller les virer de là. Donc voilà, et si vous les croisez en ville, si vous êtes en ville, si vous êtes vraiment mazo, que vous êtes en ville ce week-end et que si vous les croisez, n'hésitez pas aussi à leur balancer du vin chaud à la gueule, ça leur fera du bien. Ou n'importe quoi d'autre, voilà, un saut de colle, enfin tout ce que vous voulez, de toute manière, voilà. Voilà, bah voilà, hein, c'était tout. Une petite pause.
Ouais,
c'est toujours pénible, ces gens-là.
Bon, et ben du coup, pour changer un peu les idées, on va faire la première pause musicale avec Would You Be Impressed de Strictly.
Mais dites-moi, petit stagiaire, vous avez un accent anglais sublime.
Alors là, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc, c'est parti.
Bêtise ou pas bêtise ?
Would you be upset if I told you we were dying? And every cure they gave us was a lie. Oh, they mean it when they say we're dead and doomed. And every single symptom brings us closer to the tomb. And who will take the credit for us stripped and bending for? Because it's my fault. Would you be impressed if I said that the dead would help us counting? When seeing a moment that we waste our time, all the time we're spending vaccinating this disease. I just can't see when I think of all the ways we try to light our melodies. We won, we die, and everything is fine because it's not my fault.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et je laisse la parole à mon même camarade.
C'est ça, je monopolise. Ouais, tout à fait, je vais parler et je vais reparler. Tout ça pour faire un petit retour. Du coup, moi, j'aime bien le faire de temps en temps. Voilà, sur, il y a pas mal d'articles sur rébellion, pas historique, mais qui reviennent du coup sur des faits qui sont passés du coup avant. Et du coup, bah, la nuit dernière, et ben, c'était les 30 ans de l'assassinat de Malik Oussekine par la police. Donc, du coup, je vais vous lire un petit texte dessus parce qu'il faut jamais oublier ce qui s'est passé avant. On avait beaucoup parlé la semaine dernière d'Adama Traoré parce qu'on sait que du coup que les violences policières, et ben, ça date pas d'hier. Et même avant Malik Oussekine, il y en avait plein. Il y a un livre qui s'appelle Rengainez vite, qui n'est plus disponible à Plus Noir, je crois, mais où ici il doit en rester un exemplaire, je crois, qui revient du coup sur ces décennies de violences policières et de meurtres policiers. Et donc je vais vous faire du coup le petit texte sur ce meurtre dans la nuit du 6 au 7 décembre 1986 à Paris, en pleine répression du mouvement étudiant, étudiante lycéenne, lycéenne. Malik Oussekine, 22 ans, était matraqué à mort dans le hall d'un immeuble parisien où il s'était réfugié par deux policiers, voltigeurs, motocyclistes. Les étudiants et étudiantes lycéens et lycéennes dénonçaient le projet de loi Devaquet, instaurant la sélection à l'entrée de l'université. Le mouvement est marqué par une forte répression policière. De graves affrontements ont lieu en marge des manifestations, faisant des dizaines de blessés, dont plusieurs gravement atteints. À Paris, à la suite d'une manifestation pacifique arrivée à la Sorbonne, au quartier latin, les voltigeurs prennent en chasse les jeunes qu'ils croisent. Malik Oussekine, un étudiant marocain de 22 ans, selon toute vraisemblance qui s'était tenu à l'écart du mouvement, sort de son club de jazz favori. Il est minuit, des voltigeurs le remarquent et se lancent à sa poursuite. Malik Oussekine se met à courir. Un témoin qui rentrait chez lui, Paul Bézolon, fonctionnaire au ministère des Finances, habitant l'immeuble au 20 rue Monsieur le Prince, 6e arrondissement, a pu seul déclarer « Je rentrais chez moi ». Au moment de refermer la porte après avoir composé le code, je vois le visage affolé d'un jeune homme. Je le fais passer et je veux refermer la porte. Deux policiers s'engouffrent dans le hall, se précipitent sur le type réfugié au fond et le frappent avec une violence incroyable. Il est tombé, ils ont continué à frapper à coups de matraque et de pieds dans le ventre et dans le dos. La victime se contentait de crier « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Paul Bézolon a dit avoir voulu s'interposer mais s'être fait lui aussi matraquer jusqu'au moment où il a sorti sa carte de fonctionnaire. Puis les policiers sont partis laissant Malik Oussekine sur le carreau. Peu après, le SAMU arrive sur place. Ils apportent les premiers soins à Malik Oussekine et le transportent à l'hôpital Cochin, où il est mort des suites du tabassage de la police. Les médecins d'urgence constatent un hématome péri-auriculaire, un hématome suborbital, une fracture de la cloison nasale, une abrasion du nez et de la joue droite, etc. Ils s'aperçoivent aussi que Malik disposait d'une déficience rénale. Ce qui fait dire à Robert Pandreau, ministre délégué à la Sécurité, « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con la nuit ». Ça, c'était beau quand même, hein, comme violence. Et pour tenter de justifier leur assassinat, les voltigeurs policiers font courir le bruit en s'enferrant dans leur racisme que la sœur de Malik est une prostituée et que son frère est un escroc. On retrouve toujours les mêmes mensonges, enfin c'est un peu historique, mais du coup on retrouve les mêmes mensonges. On en parlait beaucoup la semaine dernière sur Adama Traoré, mais c'est exactement la même chose quoi, qui se répète. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, et son ministre Robert Pandreau choquent l'opinion générale en ne condamnant pas l'action de la police ce soir-là. De nombreuses manifestations monstres ont lieu alors dans toute la France où on compte plus d'un million de personnes. À Lyon, le pont de l'université est rebaptisé pont Malik Oussekine. Le lendemain, Alain Devaquet, ministre délégué à l'enseignement supérieur et auteur du projet de loi dont on ne voulait pas, présentait sa démission pendant que les étudiants et étudiantes et les lycéens et lycéennes défilaient en silence dans toutes les villes portant des pancartes « Ils ont tué Malik ». Le lundi 8 décembre, après de nouvelles manifestations, le Premier ministre Jacques Chirac annonce le retrait du texte de la loi Devaquet. Les deux voltigeurs, Jean Schmitt et Christophe Garcia, sont passés 3 ans plus tard devant la cour d'assises de Paris pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, oui bien sûr. Ils ont été condamnés en janvier 90 à 5 ans et 2 ans de prison avec sursis. De plus, au cours de la même nuit à Pantin, dans l'agglomération parisienne, un jeune Français d'origine algérienne tente de s'interposer pour faire cesser une bagarre de café. Un policier non en service qui se trouvait au comptoir tire à bout portant, sans sommation, et tue ce garçon de 19 ans qui meurt sur le coup d'une balle reçue en plein cœur. L'enquête révélera que le policier était en état d'ivresse notoire. Néanmoins, pour la justice, cet assassinat passe pour un homicide involontaire. Donc voilà, c'est toujours important de refaire un petit peu ce qui s'est passé par le passé, parce qu'on retrouve les mêmes mécaniques en fait. Enfin, on avait fait un long, on avait lu un long article la semaine dernière sur voilà la mort d'Adama Traoré, surtout sur les suites, hein, jour par jour, mois par mois, depuis 4 mois sur ce qui s'était passé. Et du coup là, il y a eu assez récemment une interview du coup de la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, qu'on voit beaucoup du coup dans les médias, en avant des manifs, enfin voilà, qui lâche vraiment pas l'affaire, qui est assez offensive et qui j'espère continuera à le faire jusqu'à ce qu'on espère, voilà, enfin la vérité éclate et qu'il y a des choses qui se passent. Donc elle a été interviewée sur le Bondy Blog, voilà, sur son combat donc pour la vérité. Donc notamment il parlait du coup que la préfecture du Val d'Oise avait mis en place plusieurs mesures pour tenter de calmer les fameuses tensions à Beaumont-sur-Oise. Parmi elles, donc, la mise en place d'une brigade de médiation qui sillonne les quartiers populaires de la ville. Donc ils ont demandé ce que Assa Traoré en pensait, hein. Nous avons déjà mis en place une médiation. C'était la nuit qui a suivi celle où un bus et plusieurs voitures ont été incendiés dans le quartier de Boyenval. Mon frère Samba, qui a participé à l'extinction du bus parce que les gendarmes avaient bloqué l'accès aux pompiers et l'artisan de cette médiation, lui et quelques amis ont sillonné tous les soirs le quartier de 20h à 2h du mat pour inviter les jeunes au calme et à la retenue. Le but était également de rappeler que notre combat ne doit être associé à aucune violence, quelle qu'elle soit. Du coup, il demande après comment les autorités ont accueilli cette médiation. Les autorités, elles ont mis la pression. Les gendarmes ont signifié donc au frère d'Assa Traoré qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Argument du fait que la sécurité était leur domaine. Du coup, je ne vois pas le rapport. C'est un acte citoyen d'apaisement pour ramener la sérénité dans le quartier. Mon frère ne faisait pas la police, hein, il n'avait pas d'armes. Tout ce qu'il portait, c'était un gilet jaune. Face à nos arguments, ils ont menacé de le mettre en prison s'il recommençait. Et après avoir consulté l'avocat de la famille, nous avons décidé de mettre fin à cette médiation. Voilà, en gros, que la mairie se débrouille sans nous. Je trouve que c'est d'un irrespect total. Ils récupèrent ce qu'on faisait déjà et ils vont le faire sans les habitants et les habitantes du quartier. Ensuite, ils ont également annoncé, du coup, la ville, hein, la mise en place d'un délégué cohésion gendarmerie population. Donc un gendarme réserviste qui fera remonter les doléances des habitants. Donc ils demandent l'avis là-dessus à la sœur d'Adama. On se moque de nous, ils disent qu'ils font ça pour apaiser les tensions et prévenir les violences. Très bien. La première des violences, c'est Adama qui l'a subi. Mon frère est mort aux mains des gendarmes, puis les voilà qui chargent un de leurs collègues de remonter les doléances des habitants et des habitantes. Comment voulez-vous qu'on ne doute pas de sa partialité ? La personne de Bondy Blog aurait continué. La préfecture vient également d'autoriser la police municipale de Beaumont de s'armer. Donc à sa réponse, ça me fait peur. La police n'arrive même pas à se servir d'une bombe lacrymogène. Le 17 novembre, une policière municipale s'est gazée toute seule. Elle avait déclaré aux médias qu'elle avait été frappée au visage. Nos avocats ont consulté son dossier. En réalité, elle s'est blessée toute seule avec le gaz qu'elle a utilisé. Nous avons décidé de porter plainte pour ce mensonge. Avec une arme à feu, je crains que la police tue des gens. Tu m'étonnes. Pas savoir servir d'une bombe lacrymo. Un flingue, c'est quand même autre chose. Ouais. Et donc en parlant de cette fameuse nuit, hein, du 7 novembre, a priori donc 3 policiers municipaux avaient été blessés en marge du conseil municipal et le chef de la police de Beaumont ont reçu du coup avec les 3 policiers blessés donc une médaille pour acte de courage et de dévouement. Donc voilà, dévouement et courage, une insulte à tous, c'est irréel. Certains policiers portent plainte pour coups et blessures et là Assa répond, une soixantaine de gendarmes et 9 policiers étaient présents ce soir-là. Si ce qu'on reproche aux Beaumontois présents ce soir-là et à mes 2 frères en détention provisoire en particulier avait un semblant de vérité, pensez-vous qu'on nous aurait laissé rentrer chez nous ? 9 policiers portent plainte et comme par hasard les témoins, ce sont les gendarmes. Pensez-vous du coup que ces mesures seront bien reçues par la population ? Je ne sais pas, que les autorités se débrouillent. De notre côté, nous cherchons à apaiser les choses et à mener notre combat intelligemment dans la sérénité. Nous condamnons toute forme de violence, même si je rappelle que la première violence, c'est Adama qui l'a subie. On rappelle aussi, on l'avait vu la semaine dernière, que les 2 frères du coup avaient été incarcérés en détention provisoire et qu'il y a eu du coup l'audience, je crois que c'était hier ou avant-hier, et qui sont laissés encore de nouveau en détention. Il y avait une demande de libération. Donc la personne de Bondy Blog demande comment vivez-vous la détention provisoire de vos frères ? Comme une intimidation et un acharnement. Un gendarme a dit à l'un de mes frères lors de son arrestation, ta sœur fait trop de bruit, qu'elle se taise. Pour moi, mes frères sont des prisonniers politiques. Vos frères risquent-ils de perdre leur emploi ? C'est un risque. En allant chercher un de mes frères sur son lieu de travail, cela aurait pu avoir des répercussions, mais les patrons de mes frères sont très contents d'eux, ils nous soutiennent dans notre combat. Leur détention prévisoire est motivée par le fait qu'ils auraient pu faire pression sur des témoins. C'est le contraire, en fait, par cette double détention, c'est sur ma famille qu'on fait pression. Et après, ils demandent comment perceviez-vous Nathalie Groux, la mère UDI de Beaumont-sur-Oise, avant ce drame qui touche votre famille ? Comme une personne qu'on ne voyait pas du tout, absente du quartier. Pourtant, mes frères et plusieurs de leurs amis ont participé à son élection. Ils ont tracté pour elle, sick quand même, truc de fou. La déception est énorme, d'autant qu'elle a relayé des propos racistes sur son compte Facebook. Nous sommes vraiment très déçus. On vous rappelle un propos Facebook, c'est qu'elle appelait les Français de souche, limite à prendre les armes et à défendre du coup le quartier. Et ensuite, ça finit pour savoir où en est l'enquête sur la mort d'Adama. Et on attend le nom du juge ou des juges à qui l'affaire sera confiée. Le tribunal de Pontoise a mis trop de temps à envoyer le dossier vers Paris, certainement parce qu'ils ont mal. ils ont mal pris la décision de dépayser l'affaire. Ça, c'est une demande de l'avocat de la famille, à savoir de, que l'affaire soit plus traitée à Pontoise, mais soit mise sur Paris pour un peu délocaliser tout ça, parce qu'il y avait trop de pression. Et dernière question, du coup, comment va donc sa maman à Assa Traoré? Bah, c'est elle qui nous donne la force, elle nous encourage à être des battants, dans le bon sens du terme, à ne rien lâcher, à nous battre pour que justice soit rendue à mon frère. Donc voilà pour ce point un petit peu, bah, violence policière pour ce soir. Donc je ne sais pas du coup par quoi on enchaîne.
On enchaîne par une première partie de lutte sociale.
Allez, on va essayer de se réchauffer avec toutes ces nouvelles abominables. Et puis la température sur Lyon aussi qui n'est pas formidable. On va partir à Tahiti. Hein, c'est pas mal ça, c'est dans l'hémisphère sud. Il doit faire au moins 35 degrés en ce moment. Comment ?
Bon. Faites vos tweets.
D'accord. Bon, alors Tahiti et puis Papeete, donc la ville principale hein, sur Tahiti, c'était début décembre avec une grève menée par le syndicat UNSA des mécaniciens au sol de la compagnie Air Tahiti Nuit. Cette grève illimitée des techniciens ingénieurs a pour but d'amener la direction à flancher sur les revendications des salariés. Les salaires, donc la grille des salaires, cette direction est dessus, d'après ce qu'ils disent. Les heures de récupération, hein, la prise en compte de ces heures de récupération, des week-ends et jours fériés. Alors, des repos compensatoires également sont revendiqués, des indemnités d'éloignement. Et depuis 4 ans, les salariés, enfin en 2012 en fait, ont fait de leur mieux pour que la compagnie prospère. Aujourd'hui, la situation financière a évolué et favorablement pour elle, pour cette compagnie. Elle est bénéficiaire d'ailleurs en 2015 de 4,82 milliards de francs CFP. Attention, hein, il faut préciser. Je ferai un petit retour là-dessus tout à l'heure. Soit 139% sur une année. Le chiffre d'affaires est à 35,9 milliards donc, de francs CFP. Alors, c'est un mieux de 8% sur l'exercice de 2014. Mais la direction, elle, ne comprend toujours pas la mobilisation. Évoque un avenir pas très radieux également. Les nouvelles technologies et le prix de tout, évidemment, qui augmente, et notamment du carburant. Exige que les revendications soient raisonnables. Et voilà, donc, pour en revenir sur le franc pacifique, en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, CFP, hein, c'est le franc pacifique, donc, qui est avec l'euro, je suis heureux de vous l'apprendre, avec l'euro, et sont les deux monnaies courantes en France. Je dirais à l'instar du CFA, hein, du franc CFA des ex-colonies françaises en Afrique. Le franc CFP ou IXPF, d'ailleurs, il est appelé comme ça également. Il y a une parité de... C'est un petit exemple comme ça. 1 euro égale 119,33174 XPF. Donc, amusez-vous avec ça. Non, j'ai voulu faire un peu le pédago là-dessus. J'en ai d'autres, mais enfin, moi, je vais arrêter là-dessus parce que ça va être plutôt chiant. On va passer maintenant à un truc aussi important. C'est à Vénissieux et Saint-Priest. On se rappelle ces deux sites de Maurice. Il y en a eu d'autres aussi, hein, mais de Maurice Ducrot hein, sur la région. Maurice Ducrot qui fait partie du groupe Arcol Industries, un repreneur professionnel à l'affût des entreprises en difficulté, qui lui-même a bouffé auparavant Caravelle, hein, qui était un concurrent. C'était en 2013, un plan social surgit de tout ça. On licencie facile, trop facile, c'est louche. Donc derrière, il y a une mobilisation des salariés, évidemment, une mobilisation générale, je dirais, qui va de l'employé du chargement de quai, du cariste, du magasinier, aux commerciaux, cadres, ou pas d'ailleurs, et ça conteste et vigoureusement ces licenciements et les maigres compensations qui vont avec, comme les primes extra, ultra, et je dirais peut-être même méga légales. Accusation, donc, c'est que Arcole, Arcole Entreprise, Industrie, pardon, qui est le principal actionnaire, a manœuvré avec la certitude et l'aplomb d'un patron voyou. Voilà. Erreur, donc, la réaction ouvrière a été totalement à la hauteur, avec une grève, des piquets de grève, des occupations, des blocages, et bien sûr, derrière, comme toujours, des procédures à gogo. Le but, évidemment, c'est de contrer et de démontrer que ce dépôt de bilan avait été bidonné par la direction de Arcole. Décembre, on revient donc à décembre 2016, donc 3 ans après, les prud'hommes ont remis le groupe Arcole à sa place dans le camp des escroqueurs manifestent et à ce titre Arcole doit payer. C'est une fourchette qui a été décidée donc par les prud'hommes entre 20 000 à 80 000 euros en indemnité de licenciement. Licenciement qui, je rappelle, était abusif. Une victoire donc due à la ténacité et à l'organisation surtout, puisque les salariés se sont regroupés en une association de défense des salariés de Maury Ducrot et de Maury Global. 150 personnes ont fait partie de cette association. Je peux dire qu'on peut aller voir ce site de l'association, qui est très explicite à ce sujet. Je reviendrai un petit peu sur 2015, avec aussi le Conseil d'État qui avait annulé le plan social qui jetait à la rue 5000 personnes. Quand même, c'est pas rien, et dont 2800 salariés en 2014 qui avaient été donc licenciés. Il faut jeter aussi un coup d'œil sur les procédures, le chemin parcouru par les salariés, leur syndicat et l'avocate de ceux-ci qui a eu entre autres sa boîte mail piratée. En épilogue, je dirais que Arcole et Caravel, donc les deux compères, n'ont pas été malins pour des escroqueurs professionnels. Il suffisait finalement d'attendre 3 années de mieux, donc 2016, la nouvelle loi du travail, et c'était, je dirais, dans la poche, puisqu'en effet, à compter du 1er décembre, les entreprises pourront licencier, c'est-à-dire diminuer la masse salariale, sur présentation de bilans négatifs, et aussi sur des objectifs qui, à leur sens, devraient être négatifs et décidés l'année précédente. Alors, une asso patronale pour la gestion du régime des garanties des créances des salariés va s'occuper de ça, c'est l'AGS, la fameuse AGS. Les employeurs financent la caisse qui intervient en cas de difficulté dans une entreprise. Paye les salaires dus, les indemnités, dans les meilleurs délais selon le Code du travail. Ils doivent s'y appliquer. Mais AGS a donné mandat de gestion à l'UNEDIC. Donc, c'est une délégation UNEDIC AGS qui procède aux avances salariales. Donc, UNEDIC qui verse ses cotisations à l'ACOS. L'ACOS, c'est l'URSSAF, en fait, finalement. Qui retransfère. Donc, l'ACOS retransfère ensuite à UNEDIC AGS toutes ces indemnités. Donc là, il y a, à mon avis, un petit coup d'arnaque quelque part. Donc Arcole ne paiera pas, n'a pas payé, et ne paiera pas probablement les indemnités directement de la caisse, de sa caisse à elle-même. Et je dirais même qu'ils vont faire appel des suites de ce jugement des prud'hommes. Voilà pour ce qui est de cette première page d'actualité sociale et de lutte.
D'accord, merci. Bon, alors on va faire une deuxième petite pause musicale et j'espère que je ne vais pas me tromper.
Enfin, j'espère aussi que j'ai été un petit peu clair parce que là, je me suis vraiment branché sur un truc très très délicat quand même. Là. Mais enfin, on peut retrouver tout ça sur Internet, oui. Il n'y a pas de souci. Heureusement que Internet est là, il y a un chouette Internet. On apprend des choses.
Alors moi,
mauvaise.
Je vais vous lancer les Concasseurs, un groupe de punk du Bugey.
Voilà, ce sont des amis.
Quand ça manque à d'être riche,
bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Il est Noir sur Radio Canut, bien entendu. L'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va réattaquer sur quelque chose.
Sur un petit point d'international, avec d'abord Hongrie, où une peine de 10 ans de prison vient d'être tombée pour un migrant qui avait forcé une barrière. Alors, les faits se sont passés en septembre 2015. Le crime d'Ahmed Ahmed, c'est de s'être trouvé parmi les centaines de migrants originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan qui étaient bloqués à Roske, au seuil de la Hongrie, le 15 septembre 2015. Les réfugiés n'ayant pas de visa, bien sûr, ils passaient jusqu'alors de Serbie en Hongrie à travers les champs, jusqu'à ce que Budapest verrouille cette frontière par des kilomètres et des kilomètres de barbelés et aussi de militaires qu'ils ont autorisés à tirer à balles réelles sur les migrants et les migrantes qui voudraient tenter de passer. Le 16 septembre, après plusieurs heures sans eau, sans information autre que des annonces incompréhensibles criées par la police, des affrontements ont éclaté entre migrants, migrantes et forces de l'ordre retranchées derrière une barrière mobile sur le bord de la route. Ces derniers ont employé des canons à eau, gaz lacrymogène et autres ustensiles dont ils ont l'habitude sur les migrants et les migrantes qui ont répliqué en lançant quelques morceaux d'asphalte ou de briques au cri d'ouvrez la barrière. Et finalement, au bout d'un moment, la fameuse barrière est tombée. Et donc les migrants et les migrantes ont commencé à avancer en chantant merci à la Hongrie. C'est là que les forces anti-émeutes on en profitait pour attaquer sans sommation et brutalement à coups de matraque et tout ce qui s'ensuit. Dans l'eau, plusieurs personnes ont été arrêtées. Mais Ahmed Ahmed est le seul à avoir été inculpé pour terrorisme. La justice fonde son argumentation sur l'article 314 du code pénal, bien moins précis que le code pénal français en matière de terrorisme. Alors, il serait coupable d'un acte de terrorisme toute personne qui commet un crime dans le but de forcer une agence ou une institution étatique à faire ou ne pas faire quelque chose. Donc effectivement, c'est plus que flou. Le procureur a enfoncé le clou dans son réquisitoire en expliquant que l'accusé a par la force tenté d'exiger de la police qu'elle ouvre la barrière. Il a lancé des pierres et agi comme porte-voix du groupe de migrants. Il a indéniablement commis un acte terroriste. Et Ahmed est à la fois syrien et chypriote, il a donc un passeport européen et aurait pu entrer sans visa à n'importe quel poste frontière. On voit bien là la volonté, encore une fois, de faire un exemple pour dissuader toute autre personne qui voudrait tenter de commettre le crime impardonnable de passer cette frontière d'une manière ou d'une autre. Je vais enchaîner sur les États-Unis avec, pour une fois, une victoire. Une victoire des Sioux face au projet d'oléoduc qui menacent leur terre. J'ai mon micro qui se fait mal, pardon. Les Sioux de la réserve de Standing Rock dans le Dakota du Nord viennent de remporter une grande victoire le 4 décembre. Depuis le 1er avril, ils ont établi un camp de résistance pour bloquer un projet d'oléoduc, le Dakota Access Pipeline, d'une longueur de 1800 km, qui menace des sites culturels ancestraux et leurs sources d'eau. Le 4 décembre, le corps des ingénieurs de l'armée américaine a annoncé qu'il refusait à la société pétrolière un permis de forage sous la rivière Missouri. La secrétaire adjointe aux travaux civils de l'armée de terre précise dans un communiqué que le gouvernement va entreprendre une étude d'impact environnemental complète et étudier des tracés alternatifs. Cette déclaration stoppe officiellement la construction de la pipeline évaluée à 3,8 milliards de dollars et financée en partie par des banques françaises. Cette bataille est gagnée, mais la guerre n'est pas terminée. Nous appuyons sans réserve la décision de l'administration et saluons le courage dont ont fait preuve le président Obama et le corps de l'armée, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur de prendre les mesures pour corriger le cours de l'histoire et faire ce qui est bon, a réagi le président de la réserve de Standing Rock, Dave Archambault. D'autres opposants et opposantes au projet de l'oléoduc se montrent néanmoins plus prudents, mettant en avant la possibilité que la compagnie exploitante fasse appel de la décision. Tout le monde doit rester en place, commente Frank Archambault encore une fois, membre de la tribu de Standing Rock qui s'est installé avec toute sa famille dans le camp de résistance depuis plus de 4 mois. On nous a menti et trompé tout ce temps, pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? L'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier 2017 pourrait également changer la donne, bien sûr. La semaine dernière, il a rappelé qu'il appuyait le projet d'oléoduc, mais il assure que son soutien n'a rien à voir avec son investissement. Sachant que lui-même a investi entre 500 000 et 1 million de dollars dans la compagnie qui gère le projet. Donc on peut douter, bien sûr, de sa bonne foi, ce qui n'est pas surprenant. Je vais continuer en revenant de en France, cette fois-ci, avec à Nantes. L'État qui a finalement été condamné pour avoir éborgné un jeune avec un flashball. Mais bon, bien sûr, attention, condamné jusqu'où ? L'État français devra verser 48 000 euros à la victime dont la responsabilité a aussi été engagée. La décision était très attendue. Le tribunal administratif de Nantes a condamné l'État français mardi soir à verser donc 48 000 euros dommages et intérêts à un Nantais victime d'un tir de lanceur de balles de défense, le LBD, qui a été touché au visage lors d'une manifestation contre les réformes des universités en 2007 devant le rectorat de Nantes. Le jeune homme, âgé de 17 ans à l'époque, avait perdu l'usage de son œil droit, qu'il a toujours perdu. Le tribunal a estimé qu'une faute avait été commise par l'État dans la mesure où la police a fait usage du LBD alors en cours d'expérimentation, dans un cadre juridique imprécis, avec une formation insuffisante et utilisée à une distance bien inférieure à celle préconisée. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues encore très récemment, hein, pendant le mouvement de la loi travail. On voit qu'ils ont pas du tout appris de leurs excès, et que les LBD sont toujours utilisés et très 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 régulièrement à courte distance sur des manifestantes et des manifestants, avec d'autres d'ailleurs personnes qui ont été éborgnées ou voire même des cas encore plus graves. Donc le tribunal a aussi considéré que la responsabilité de la victime était engagée tout autant que celle de l'État, cette dernière ne s'étant pas désolidarisée ni éloignée des manifestants et manifestantes lorsque les violences ont été commises envers les forces de l'ordre. Pour rappel, hein, si c'est l'État qui a été inculpé dans cette affaire, c'est parce que le policier a d'abord été relaxé. Au pénal, le policier qui avait tiré avec ce lanceur de balles de défense a été relaxé en avril 2012 par le tribunal correctionnel de Nantes. Ce dernier avait estimé que le prévenu bénéficiait d'une irresponsabilité pénale car il avait tiré sur ordre de son chef, une autorité légitime au regard du code pénal. Pour continuer avec ces nouvelles réjouissantes, une professeure a été condamnée à 3 mois de sursis pour avoir accompagné ses élèves à manifester contre la loi travail. La répression judiciaire post-loi travail continue. Accusée d'avoir participé trop activement à une manifestation lycéenne en mars dernier, Marianne Thomas, enseignante de philosophie au lycée Gabriel Fauré, a été condamnée ce 6 décembre à 3 mois de prison avec sursis, 3000 euros d'amende et 1500 euros de dommages et intérêts pour outrage envers des policiers et organisation d'un rassemblement non autorisé. Ce 6 décembre, Marianne Thomas a comparu devant le tribunal de Foix pour avoir participé trop activement à la manifestation en mars dernier pendant la mobilisation contre la loi travail. Parmi les faits qui lui ont été reprochés, on dénombre un outrage à agent, l'organisation donc d'un rassemblement non autorisé et l'incitation à rébellion. La délibération du jugement tenue en octobre dernier revient sur l'accusation d'incitation à rébellion, mais reste ferme sur les deux autres chefs d'accusation. Pour l'enseignante, cette condamnation n'a rien d'un jugement impartial, mais relève toute évidence d'un jugement politique. Dans beaucoup de documents qu'a utilisé la procureure de la République tout en me disant que ce n'était pas un procès politique, elle a utilisé des documents que j'avais écrits dans le cadre syndical et qui reflétaient mes idées, alors que je ne devais pas être jugé sur des idées, mais simplement sur des faits. Donc ça m'a beaucoup choqué qu'on ne reste pas sur des faits, mais qu'on fasse appel à ma personnalité. Encore une fois, de toute façon, à peu près pendant tous les procès qu'on a pu voir durant ce mouvement, quand des manifestantes ou des manifestants étaient inculpés, c'était pour faire des exemples, et c'était des procès politiques, même quand on nous disait le contraire. Je vais relaisser la parole pour une petite partie de lutte encore.
Bah oui, il y a une deuxième page de lutte.
On essaiera de garder peut-être quelque chose pour les annonces. Bah, à la fin, si on a un peu de temps.
Tout à fait. Eh ben, je vais faire au moins une page ou deux, on verra. Tu me fais signe, parce que je ne vois pas la pendule derrière moi, mais j'ai ma montre. Donc, allez, 5 minutes de lutte sociale avec Nancy, la grande société Transdev du groupe, si je ne m'abuse, Veolia, qui s'était fait remarquer d'ailleurs dans le conflit avec la SNCM à Marseille. On a fait pas mal de retours, donc d'informations sur cette lutte à Marseille. Donc c'est un groupe Transdev, un groupe spécialisé dans le transport collectif et le transport en commun, eh bien, qui a pris une grève dans les gencives, c'était le 4 décembre, les 5 et 6 décembre également, sur le réseau de la ville de Nancy, le réseau Stan. Alors KID, c'est-à-dire que se passe-t-il ici? Ben, c'est un PSE de 43 emplois à supprimer. Le comité d'entreprise qui est concerné dans cette affaire a du mal avec son son interlocuteur d'en face, hein, qui est la direction de Transdev. 80% de grévistes, qui sont notamment des conducteurs de bus. Et ça a touché, bien sûr, cette grève, les bus et les trams de la ville. Un mouvement qui avait déjà pris part il y a quelques mois, donc c'était à la mi-septembre. À Étampes, dans le 91, avec une grève totale chez Smurfit Kappa, c'était le 1er décembre. Alors je dis totale pour bien appuyer, car tout le personnel a pris sa part dans ce mouvement, a pris son compte dans ce mouvement, soit 60 personnes qui se battent pour la reconnaissance de leur travail. Ils et elles font remarquer, bien sûr, les manières de faire de la direction, qui a des pratiques, disons, un peu cavalières, c'est un euphémisme, selon les sites. Par exemple, à Étampes, les primes de vacances sont à 350 euros, alors que sur d'autres sites, c'est 850 euros. Bref, bien joué les patrons, ça sème la discorde. Bon plan pour cesser, pour mettre fin au collectif, tout collectif qui pourrait se mettre en place dans cette entreprise. C'est tout à fait ringard, ça date du 19e siècle, à foutre en l'air tout de suite par nous-mêmes, travailleurs et travailleuses. Alors les revendications pour aujourd'hui sont 900 euros de primes, une suppression de la journée de carence, la majoration de la prime d'ancienneté, ils veulent 18% de mieux, le piquet de grève qui était prévu le 5, et Smurfit Kappa, c'est une cartonnerie, pour préciser, là aussi je vais faire un peu le pédago, qu'un EBITDA, c'est un EBITDA, alors c'est de l'anglais, je vais pas m'apesantir là-dessus, c'est un EBITDA positif. Alors qu'est-ce que ça? Et me suis-je dit, je suis allé rechercher un petit peu pour donner l'information. Ça désigne les revenus d'une entreprise avant soustraction des intérêts, impôts, dotations et amortissements, provisions, etc. Indicateur donc des résultats économiques d'une entreprise. Autre nom de cet OVNI, c'est BAIA. Bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements. On aurait dû peut-être commencer par là, ça aurait été bien plus simple. Et ça correspond au profit généré par l'activité d'une entreprise. Donc je répète, il est positif, selon les grévistes. Donc pourquoi supprimer des emplois? Voilà, on sera toujours la même question. Et puis pour terminer donc cette page et passer aux annonces de tout à l'heure, c'est une manif départementale en Moselle. Ce sont des gouvernantes là qui sont en colère avec un changement de statut qui selon elles leur ferait perdre 350 euros sur les salaires actuels qui sont à 1 500 euros. Ça va pas chercher bien loin. Donc leur boulot, elles assurent le maintien à domicile de malades, ce qui selon la CGT économise à la collectivité 300 euros par personne et en hospitalisation. Et voilà, c'est toujours la bagarre, voilà. Et on passera à la suite la semaine prochaine, parce que là, je crois qu'il va falloir laisser
l'heure tourne. Ouais.
Il y a rappel des
un petit des rappel annonces. Des annonces, ouais.
La conférence formation contre la misogynie vendredi 9. Donc ce vendredi à la Plume Noire, 8 rue Diderot. Animée par la commission antipatriarcat, donc féministe de la CGA.
À quelle heure, s'il te plaît?
19h. Ouais.
Ok. C'est ouverture des portes à 18h30.
18h30,
je pense,
ouais.
Déjà.
Ouais,
ça
ouais,
peut...
Et on ne pourra pas refaire toutes les annonces parce que le camarade s'est barré plus tôt avec les feuilles. et il ne les a pas laissées. Alors, par contre, annonce quand même qu'on n'a pas fait tout à l'heure. La CGA 74, pour celles et ceux qui seront dans le coin, organise une projection débat autour de la Révolution espagnole le 15 décembre à l'Alter Local. Donc vous pouvez trouver des infos sur le site de l'Alter Local, c'est écrit A-L-T-E-R-L-O-C-A-L. Et voilà, donc c'est bon, t'as quelque chose d'autre à dire?
Non.
On va lancer le générique. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés.
On peut annoncer la lumière du frigo quand même, qui est juste derrière et qui s'installe. Voilà. À mercredi.
Salut.